Vous écoutez toujours Radio France Internationale, il est 19h30 ici à Paris, 17h30 en temps universel.
Le débat du jour. Diane Berger.
C'était il y a 80 ans, le 26 juin 1945, la signature de la Charte des Nations Unies, le lancement d'une institution dédiée au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, le développement et la protection des droits humains. 8 décennies plus tard, on peut s'interroger. L'ONU n'a pas réussi à empêcher, par exemple, les nombreux conflits au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine ou encore celle au Soudan. Au moment de souffler les bougies, une question. L'organisation est-elle une vieille dame, justement, à bout de souffle? Comment lui redonner du poids dans un cadre international de plus en plus tendu et complexe? Faut-il moderniser l'ONU? C'est la question qui va nous occuper dans la demi-heure qui vient avec nos 3 invités. Bonsoir Alexandra Novoselov.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse associée au centre Thucydide de l'université de Paris Panthéon Assas. Vous avez écrit notamment le livre Le Conseil de sécurité de l'ONU entre impuissance et toute puissance. Également en studio avec nous Mathilde Leloup. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 8, directrice adjointe du laboratoire CRISPA. Vous êtes également membre du GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Et vous publiez en septembre prochain un livre qui intéressera les auditeurs qui veulent approfondir là aussi, Les idées reçues sur les organisations internationales. Ce sera aux éditions Cavalier Bleu. Et puis, nous sommes en ligne avec Michel Duclos. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Michel Duclos, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur et représentant de la France auprès des Nations Unies, conseiller spécial géopolitique à l'Institut Montaigne et auteur du livre Diplomatie française. Là, c'est aux éditions Alpha. Avant d'aborder les pistes pour moderniser une institution comme l'ONU, il faut d'abord faire le point sur la situation actuelle. On a parfois l'impression que lorsque le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lance un appel à la désescalade à des pays au bord du conflit ou déjà en guerre, on a l'impression parfois que ces appels arrivent un peu dans le vide. Alexandra Novoselov, est-ce que l'ONU est en panne ?
Alors, on pourrait dire ça, sauf que l'ONU, c'est une organisation d'État et ce sont... C'est la concorde entre les États qui est en panne. Hein. Mmh. C'est une division aujourd'hui généralisée qui empêche de prendre des décisions. L'ONU n'a jamais été conçue pour arrêter les conflits, pour arrêter tous les conflits de la Terre, et notamment ceux qui impliquent les grandes puissances que sont les membres permanents du Conseil de sécurité, donc Russie, États-Unis, Royaume-Uni, France et Chine, et qui ont ce fameux droit de veto et qui peuvent s'opposer à des décisions qui ne leur plaisent pas. La charte des Nations Unies est un cadre qui aujourd'hui est bien entendu avec le droit international complètement remis en cause, et c'est ça le problème en réalité, plus que l'organisation elle-même.
C'est ça, entre les objectifs qui ont été fixés en 1945 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, on a un contexte qui a connu beaucoup de hauts et de bas. On ne va pas pouvoir résumer 80 ans d'histoire en quelques minutes, malheureusement. Mais on est là aujourd'hui dans un contexte où beaucoup d'États, beaucoup de grandes puissances n'arrivent tout simplement plus à se parler. C'est ça le problème ?
Oui, et puis je crois, alors l'ONU depuis en 80 ans a connu beaucoup de hauts et de bas, mais je crois que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une attaque en règle contre le multilatéralisme, contre les valeurs qu'il véhicule et les valeurs justement de pouvoir notamment se parler, mais aussi au-delà, toutes les valeurs liées à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc c'est ça qui est remis, je crois, en cause et qui est attaqué de toutes parts.
Michel Duclos, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est là on est sur une attaque assez inédite contre le multilatéralisme ou est-ce qu'on est dans une phase de crise comme l'ONU en a déjà vécu?
Je pense qu'on est plus que dans une phase de crise récurrente. Alors peut-être, il faut garder le sens des perspectives. Ne croyons pas que le Conseil de sécurité a été pendant 70 ou 80 ans efficace et que depuis quelques années, il a perdu cette efficacité. En fait, pendant la guerre froide, le Conseil de sécurité était déjà paralysé. Il a vraiment joué son rôle, en réalité, qu'une dizaine d'années, dans les années 90 et au début des années 2000. Donc, d'une certaine manière, il faut relativiser la crise actuelle. Cependant, même ayant dit cela, c'est vrai que jadis, il y avait une division au sein du Conseil qui très souvent paralysait celui-ci, mais la légitimité même du Conseil de sécurité n'était pas remise en cause par l'ensemble des États de la communauté internationale. Aujourd'hui, on voit la Russie et les États-Unis faire quand même un très très grand écart par rapport à la légitimité du Conseil de sécurité. Et parmi les grands États du Sud, ceux qui avaient espéré rejoindre un jour le club des membres permanents
Qui sont, je le
commencent à
rappelle pour les
désigner
auditeurs, ceux qui ont un droit de veto extrêmement facile à activer.
les cinq qu'a cité Alexandra tout à l'heure. Donc, des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud qui aspiraient à rejoindre ce club, alors, sans compter le Japon et l'Allemagne, mais je pense en particulier aux grands États du Sud. Le fait d'être toujours sur le pas de la porte sans être invité à entrer finit quand même par les détourner de croire vraiment à l'importance de cette enceinte. Et donc il y a un ensemble de facteurs. Le plus important était quand même la dissidence russe et américaine qui contribue à beaucoup affaiblir ce volet-là au moins des Nations Unies, même si par ailleurs l'Assemblée générale d'un côté, les agences techniques de l'autre, les programmes comme le PNUD, tout cela continue à avoir une certaine importance.
Oui, justement, là, on parle du blocage au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, mais vous venez de le rappeler, les Nations Unies, ce n'est pas que le Conseil de sécurité, même s'il est extrêmement important. L'ONU, c'est aussi toute une série d'agences et de très nombreux employés sur le terrain, notamment dans l'humanitaire. Mathilde Leloup, est-ce que là, on assiste à un affaiblissement des missions de l'ONU?
Alors oui, pour reprendre un peu ce qu'ont dit mes deux collègues, en fait, on assiste à deux crises structurelles, la crise du Conseil de sécurité, la crise de l'ONU en général, qui est en fait davantage liée à un problème de coordination entre ces multiples agences. Il faut savoir qu'il y a à la fois les six organes de l'ONU, parmi lesquels le secrétariat, on a aussi les agences spécialisées, les fonds, les programmes, etc. Donc on a vraiment une démultiplication aussi des acteurs au sein même du système onusien. Donc souvent, on en a une vision un petit peu monolithique. Et c'est tout ce système-là qui est en fait en crise. Et effectivement, je pense qu'en plus, on assiste à l'heure actuelle à une crise conjoncturelle qui est effectivement cette attaque en règle qu'évoquait Alexandra. Notamment, que ce soit les membres permanents du Conseil de sécurité, mais principalement les États-Unis de Donald Trump, avec la menace du retrait de plusieurs agences, l'OMS, l'UNESCO. Vraiment, cette sensation aussi de menace qui plane sur l'ONU tout entière, avec la baisse de 40% des financements humanitaires à laquelle on assiste.
Oui.
Pour l'année 2025. Et bien sûr, la création du Doge UN avec Elon Musk à sa tête, qui vient en fait proposer soi-disant un système de réforme. Et qui,
voilà,
en
il faut
fait,
peut-être expliquer à nos auditeurs et nos auditrices, parce que je pense que ce n'est pas encore
oui.
très connu du grand public, ce concept de Doge UN.
Alors, Doge, c'est l'acronyme pour Department of Government Efficiency, et donc c'est un département qui a été créé par Donald Trump au tout début de son mandat
Pour l'administration fédérale américaine.
Voilà. Et en fait, il est question, enfin, c'est la rumeur, il est question de créer un Doge UN pour voilà, créer plus de transparence, plus de responsabilité, moins de. Alors, il y a tout un tas d'expressions qui sont utilisées comme le gaspillage, la fraude, la corruption, etc., pour attaquer les Nations Unies. Donc, en fait, c'est ce que fait le Doge, mais appliqué à l'ONU.
Et alors, on pourrait se dire spontanément, mais c'est une très bonne nouvelle, à faire plus de transparence, plus de responsabilité à l'ONU, je vois faire la moue.
Oui, alors ce qui est un petit peu inquiétant avec ce programme-là, c'est qu'en fait, ça s'appuie sur des critiques qui sont en fait très anciennes à l'égard du système onusien. Je pense par exemple à la notion de capture bureaucratique qui est très souvent employée. La capture bureaucratique, ce serait une forme de mainmise des technocrates et des fonctionnaires internationaux sur les arènes onusiennes. Là encore, c'est une vision qui est très simpliste en fait du système des Nations Unies, parce qu'en fait, si on regarde la composition du personnel, c'est uniquement une part en fait qui n'est plus majoritaire. Il y a aussi tout un tas de contractuels, temporaires, des délégués des États, etc. Donc en fait, c'est une vision qui est tout à fait parcellaire en fait du système onusien, très réductrice. Mais en s'appuyant sur ces critiques très anciennes, eh ben, ça lui donne un petit peu de force quand même. Et c'est là que c'est un petit peu inquiétant.
Et dans cette situation, on voit quelque chose d'assez paradoxal, c'est que les États-Unis cherchent à se retirer de l'ONU. Excusez-moi, j'allais faire un lapsus bizarroïde. Les États-Unis, en tout cas, reculent sur les financements. Et derrière, on a l'impression qu'ils essayent d'agir. Comment l'expliquer, Alexandra Novoselov?
Alors, les États-Unis ne veulent pas se retirer du tout des Nations Unies.
Ouais, hein, je crois ils ont coupé le budget de beaucoup d'agences.
Ils ont réduit le budget, voire ils veulent l'annuler. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore la décision n'est pas encore prise. C'est sûr qu'ils ont coupé gravement dans les fonds humanitaires de par la quasi-fermeture de USAID, donc l'agence de développement américaine par lesquelles les fonds arrivaient. Je crois qu'il faut... mais ils veulent garder cette organisation, parce que d'abord, elle est à New York. Ensuite, il y a un besoin d'avoir une enceinte dans laquelle on se réunit, dans laquelle on peut prendre des décisions le moment venu, au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale. Les chefs d'État et de gouvernement aiment bien aller à l'ouverture de l'Assemblée générale tous les mois de septembre. Donc, je crois que ça n'est pas, à mon sens, n'est pas remis en cause, mais il y a une vraie attente sur les moyens de l'organisation. Je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. L'organisation emploie moins d'employés dans le monde que la mairie de Paris.
Ah ouais. Ça donne une proportion quand même assez saisissante.
Et c'est 36 000 fonctionnaires dans le monde entier. Ensuite, le budget des Nations Unies, quand on prend les 6 organes principaux et toutes les agences du système des Nations Unies, c'est à peu près 60 milliards de dollars, c'est-à-dire le budget de la défense français ou le service de la dette français. Donc, vous voyez, c'est, je ne veux pas dire que c'est peanuts, mais on n'est pas dans les chiffres. Et en tout cas, il faut rappeler quand même ici que faire la paix coûte beaucoup moins cher que faire la guerre.
Et faire du développement, aller aider à la transition écologique, là aussi, ça coûte moins cher que d'avoir les dégâts à la fin.
Et je tiens à rappeler aussi que les Nations Unies ont été précurseurs. On oublie sur un certain nombre de politiques. Hein, toutes les grandes conférences qui ont été organisées par les Nations Unies depuis les années 90 ont été précurseurs dans la nécessité de mettre un certain nombre de règles, de normes sur tout un tas de domaines, de l'environnement au développement, en passant par les droits de l'homme, bien sûr, et d'autres domaines. Donc, je crois que... Et aujourd'hui, si on arrive... Alors, on n'envoie plus tellement de lettres à nos amis, aux concitoyens, mais si on arrive... Enfin, les timbres, c'est l'Union postale. Donc
l'ONU.
C'est très ancien. Et ça touche à toutes les activités de notre vie au quotidien, les télécommunications, les règlements pour faire fonctionner le système aérien, la circulation des avions vient d'organismes des Nations Unies.
Et Michel Duclos, justement, vous qui connaissez bien le fonctionnement des Nations Unies, comment est-ce que vous voyez cette influence que les États-Unis sont en train de développer, cette influence, qui en tout cas cette envie de changer fondamentalement la forme même des Nations Unies avec ces coupes de budget, entre autres?
Je ne sais pas où ils en sont au jour d'aujourd'hui, puisque comme ça a été dit, ils n'ont pas encore vraiment choisi. Ce qui me frappe historiquement, c'est que les États-Unis ont toujours été ambivalents vis-à-vis des Nations Unies. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était un pilier essentiel du système, qui en quelque sorte incarnait ce qu'on appelle l'ordre libéral américain, qui a été censé créer par la suite de la Seconde Guerre mondiale, principalement par les États-Unis, ou sous leur influence. Et en même temps, souvent, il y avait des sénateurs ou des présidents qui rejetaient les Nations Unies comme une entrave à la liberté américaine ou comme un fardeau. Donc, le fait que aujourd'hui les États-Unis se reposent sérieusement la question de la finalité des Nations Unies, c'est ni nouveau, ni peut-être d'ailleurs complètement malsain, parce que ça va obliger les autres États à réévaluer l'importance de l'organisation. Or, pour moi, outre tous les aspects pratiques qui ont été déjà indiqués, les Nations Unies, c'est aussi des agences qui fournissent des services en matière d'immigration, de postes, d'équipements postaux, de trafic aérien, dans beaucoup de domaines, effectivement. Le FMI et la Banque mondiale ne font pas partie techniquement des Nations Unies, mais c'est quand même dans le système multilatéral. Tout cela, ça répond à un besoin absolument fondamental, là, de tous les États, qui est d'avoir un forum commun. Au fur et à mesure que le Conseil de sécurité s'affaiblissait, était paralysé, l'Assemblée générale a pris de plus en plus d'importance. Et c'est un phénomène auquel on doit être attentif, parce que si les États sont déçus, s'ils reprochent beaucoup aux Nations Unies de ne pas jouer un rôle suffisamment important, en même temps, dans notamment le sud global, mais au-delà, les États souhaitent le maintien d'une structure qui soit une sorte de forum où la communauté des nations peut débattre et faire part de ses préoccupations. Je crois que là, il y a un noyau qui, pour l'instant, n'est pas atteint, qui est irréductible, et à partir duquel des États comme les États européens et un certain nombre de grands partenaires dans le monde, peut-être la Chine, qui finalement a hésité, elle aussi, mais qui peut avoir son intérêt au maintien d'une enceinte universelle. Donc un certain nombre d'États doivent faire le gros dos et en même temps faire des propositions pour non seulement sauver l'institution, mais l'adapter en tenant compte des critiques, y compris naturellement de
Alors,
ce pilier essentiel que
il
sont les
faut adapter
États-Unis.
effectivement les Nations Unies. Alexandra Novoselov, je vous ai vu réagir à la mention de la Chine. Le rôle de la Chine, vous y croyez?
Alors pour l'instant, la Chine, alors c'est vrai que depuis quelques années, elle est montée en puissance de manière dans le financement du budget des Nations Unies. Elle est deuxième contributeur depuis maintenant 5-6 ans. Mais on ne l'a pas vue faire des déclarations pour venir, on va dire, au secours des Nations Unies alors que les Américains menacent de couper complètement les contributions obligatoires et ont coupé et sont en train de couper les autres contributions volontaires. Donc on n'a pas vu la Chine
Se
réagir
mobiliser.
et les Nations Unies ont quand même un rôle très grand dans les ce qu'on appelle les pays du Sud, où ils apportent, avec le travail du programme des Nations Unies pour le développement et tout un tas d'autres organismes du système, une aide extrêmement utile. D'ailleurs, vous avez fait récemment un article sur à combien l'Afrique est inquiète de la baisse des financements donnés aux Nations Unies.
Un article à retrouver sur le site de RFI. Mathilde Leloup, vous vouliez réagir également.
Oui, tout à fait. En réalité, je trouve qu'on cadre aussi souvent le débat en se demandant finalement si l'ONU sert toujours à quelque chose ou si elle coûte trop cher ou si ceci ou si cela. En réalité, les États tels que les États-Unis et la Chine ont encore besoin de l'ONU. Et je pense que là, il est quand même important de rappeler aussi que la Chine a besoin de l'ONU et qu'elle s'investit en fait dans ces arènes, c'est-à-dire qu'elle brigue le leadership de plusieurs agences, la FAO en tête, donc l'agence en charge de l'alimentation mondiale, et que même les routes de la soie, qui sont vraiment mises en avant par la Chine, s'appuient aussi en grande partie sur le Conseil économique et social, l'ECOSOC, donc un organe des Nations Unies. Donc en réalité, je pense qu'il y a un discours de façade très critique de ces États contre le multilatéralisme, alors qu'en réalité, ils s'en servent et ils continuent de s'en servir. Et sur l'ambivalence que mentionnait mon collègue, c'est vrai que, par exemple, les États-Unis ont accusé les Nations Unies et l'UNESCO en particulier de politisation depuis des années, alors qu'en réalité, ils politisent et ils contribuent à politiser l'organisation tout autant qu'elle est elle-même politisée. Donc, c'est aussi vraiment un jeu de dupes, un jeu d'accusations où on brandit ce type de notion pour aussi faire réagir, faire le buzz, faire. Et c'est la spécialité de Donald Trump, donc ça tombe assez bien. Mais disons qu'à mon avis, il faut quand même séparer les discours.
et les actions concrètes. Et en réalité, les États-Unis, si elles coupaient leur contribution obligatoire, perdraient aussi leur droit de vote à l'Assemblée générale. Donc, il faut quand même avoir aussi ce genre de choses en tête. Donc, prendre un peu de pincettes quand on a
un peu de recul entre les actions, le discours,
mais qui derrière vont quand même amener potentiellement une fragilisation des institutions. Michel Duclos.
Oui, pour moi, la Chine n'a pas encore vraiment une stratégie, parce que là aussi, il faut bien voir, c'est un immense pays. Quand ils décident de s'occuper un peu des Nations Unies, évidemment, ils ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de personnel, dans le maintien de la paix notamment. Ça ne veut pas dire qu'ils s'y engagent à fond, qu'ils y accordent une très grande importance. Ils prennent le contrôle de telle ou telle agence technique, ça ne veut pas dire qu'ils veulent prendre en main le destin des Nations Unies, si vous voulez. Et c'est là où il y a quand même, je crois, une piste pour des pays comme les nôtres en Europe, parce que lorsque les BRICS ont été créés, une des décisions pratiques, c'était de construire, d'établir certaines agences, notamment une banque qui pourrait être une banque du développement, qui pourrait être une sorte de rivale de la Banque mondiale. Mais là aussi, les Chinois l'ont fait, encouragé, mais sans investir beaucoup, et donc sans créer un système alternatif aux Nations Unies. Et le constat qu'il faut faire, c'est que pour l'instant, les Chinois ne proposent pas un système alternatif, et que beaucoup de pays du sud global, qui sont la clientèle naturelle de la Chine, souhaitent le maintien des Nations Unies. Donc il y a là, sur un plan stratégique, quand même des conditions qui peuvent permettre à ceux qui souhaitent la modernisation et une plus grande efficacité de l'organisation un terrain d'action possible. En tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses.
Et justement, comment est-ce qu'on peut moderniser l'action des Nations Unies ? On vient de faire un état des lieux quand même assez complet des attaques américaines, de la manière dont la Chine utilise aussi les Nations Unies à leur façon. Comment est-ce qu'on peut, justement, quels sont les chantiers prioritaires, Mathilde Leloup ?
Eh bien là, avec l'anniversaire des Nations Unies, on a ce programme ONU 80 qui a été lancé en mars dernier pour l'anniversaire. Et donc, on a un nouveau programme de réforme. En réalité, ce programme de réforme des Nations Unies, c'est véritablement un serpent de mer. Ça fait des années, c'est par cycle. C'est comme la notion de crise et des organisations internationales. Ça revient de manière récurrente.
Mais là, c'est peut-être un peu plus urgent que d'habitude, visiblement.
Oui, mais c'est quand même important de rappeler que ça n'est pas la première fois et qu'en fait, le grand instigateur de la réforme de l'ONU, c'est Kofi Annan en 2005. Donc, ça fait 20 ans déjà. Ouais. Et même Antonio Guterres, au début de son mandat en 2017, avait lui-même mis en place un nouveau programme de réforme, Unis pour la réforme. Donc à chaque fois, voilà, on a un nouveau programme de réforme. En réalité, c'est je ne dirais pas que c'est toujours la même chose. Là, les trois priorités, c'est augmenter l'efficacité, essayer de reprendre, grâce à l'intelligence artificielle, l'ensemble des mandats, donc ces responsabilités confiées par les États membres à l'organisation pour essayer de faire le point, réorienter les programmes pour éviter les doublons, les lourdeurs, etc. Bon, en fait, c'est un petit peu la même chose formulée de trois manières différentes. Fondamentalement, si on regarde ce qu'avait prévu de faire Kofi Annan ou Antonio Guterres, ce n'est pas si différent. À chaque fois, on reprend les entrées thématiques. Là, il y a sept groupes de travail thématique, la paix et la sécurité, l'action humanitaire, le développement, etc. En fait, c'est des espèces de mises en cohérence à chaque fois. Et bon, je ne suis pas sûre que ce nouveau cycle de réforme soit radicalement révolutionnaire par rapport aux anciens.
Oui, Mathilde Leloup, vous avez des doutes. Vous, Alexandra Novoselov, est-ce que c'est les bons chantiers qui sont activés aujourd'hui par les Nations Unies ?
Bah, oui, alors c'est vrai que ça fait des années qu'on veut coordonner mieux le système, qu'on veut rationaliser les programmes, le travail des agences, etc. Maintenant, il faut dire que les réformes ajoutées aux réformes, à un moment donné, ça épuise, en fait. Mmh. Et on a vu dans le débat d'hier, quand même, que les États posent des doutes sur l'utilité de ces nouvelles réformes qui ne sont pas nouvelles et qu'on a tendance à confondre réduction des coûts, qui est quelque chose qui va impacter et qui amène à faire des choix, et puis réforme en tant que telle. Parce que qu'est-ce que ça veut dire moderniser les Nations Unies ? Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
Oui, vous voyez, pour Donald Trump, par exemple, moderniser, c'est couper dans les budgets et réorienter.
Oui, mais ça, c'est pas moderniser.
C'est ça.
Pour moi, c'est pas moderniser.
C'est...
Voilà. Donc je crois que là, il y a quand même des États qui ont dit clarifier les choses. Oui, et tous les secrétaires généraux des Nations Unies, depuis bien avant Kofi Annan d'ailleurs, ont eu leur paquet de réformes et sont arrivés avec. Antonio Guterres a eu la malchance d'avoir deux mandats Trump en même temps et que, en fait, il s'est dit si je suis obligé de proposer un nouveau paquet de réformes parce qu'on me coupe les vivres. Mais les choses ne sont pas forcément. C'est pas forcément la même chose. Voilà.
Michel Duclos, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que ce nouveau chantier qui a été lancé, c'est le bon? Et est-ce qu'il va dans la bonne direction, dans la bonne modernisation?
Oui, mais ça, c'est de la rationalisation, c'est de la recherche de l'efficacité. Ça ne résout pas le problème politique de fond. Et là, on revient au Conseil de sécurité, qui est la discorde entre les grandes puissances. Et là, à mon avis, il y avait deux choses à faire. Une première chose que Kofi Annan, enfin les deux choses que d'ailleurs Kofi Annan avait essayé de faire en 2005, c'est évidemment l'élargissement du Conseil, et c'est aussi un vrai aggiornamento sur le recours à la force. Vous savez que selon la charte, les États n'ont droit à recourir à la force que dans le cas de légitime défense ou sur autorisation du Conseil de sécurité. On en est très loin aujourd'hui. Et c'est pour des raisons, évidemment, c'est parce que les États, la Russie et d'autres sont ce qu'ils sont, mais c'est aussi parce que le code qui avait été prévu dans la charte est un peu inadapté, il faut le reconnaître, aux situations actuelles. Et s'il y avait une réforme du recours à la force, on pourrait rallier un certain nombre de pays du Sud qui seraient intéressés, qui participeraient plus que ce n'est le cas actuellement aux questions de paix et de la guerre. Même, évidemment, même remarque sur l'élargissement du club des membres permanents. Moi, je n'ai pas bien compris quand Biden, il y a quelques années, avait déclaré qu'enfin les États-Unis étaient d'accord pour soutenir cette idée, pourquoi le P3, donc la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, n'ont pas pris une nouvelle fois une initiative.
Oui, et Alexandra Novoselov, vous voulez réagir très rapidement, parce que c'est malheureusement la fin de ce débat, on pourrait en parler une heure encore.
Juste un mot pour dire que le problème politique, c'est aussi la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et arrêter le deux poids deux mesures dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité.
Merci beaucoup à tous les trois. Alexandra Novoselov du Centre Thucydide de l'Université Paris Panthéon Assas, Mathilde Leloup, membre notamment du GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Et puis merci à vous, Michel Duclos, ancien ambassadeur et représentant de la France auprès des Nations Unies. Dans quelques instants, ce sera le grand journal du soir de Christophe Paget, suivi une demi-heure plus tard d'Afrique Soir. Et on va justement jeter un œil au titre de l'actualité africaine. Bonsoir Zéphirin Kouadio.
Bonsoir Diane, bonsoir à tous. Et à tous.
Quel va être le programme?
Écoutez, nous commencerons par notre tour d'horizon de l'actualité africaine par la Centrafrique, vous le savez, la Centrafrique endeuillée par cette tragédie au lycée Barthélemy Bogranda de Bangui. L'explosion d'un transformateur électrique a provoqué une bousculade dans cet établissement qui accueillait des milliers de candidats au bac. Bilan au moins 10 morts et plusieurs dizaines de blessés. Des vies perdues également au Kenya lors de manifestations organisées ce matin pour commémorer le premier anniversaire du mouvement citoyen violemment réprimé l'année dernière. Des ONG parlent d'au moins 8 morts et puis nous reparlerons aussi des accusations du Soudan contre le Kenya. Khartoum accuse Nairobi de promouvoir la division sur son territoire et de fournir des armes aux paramilitaires des forces de soutien rapide.
Merci beaucoup Zéphirin Kouadio. On vous retrouvera donc à 18h30, temps universel. Et avant cela, ce sera le grand journal international du soir de Christophe Paget. Restez à l'écoute de RFI. Et puis surtout, si vous voulez retrouver ce débat, les références aussi de nos invités, on a parlé de tous vos livres, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site www.rfi.fr. C'est aussi à retrouver comme tous nos programmes, toutes nos émissions sur notre application RFI Pure Radio pour l'écouter aussi sur votre smartphone si vous avez pris en cours de route et que vous vouliez comprendre le début. Il est bientôt 20h ici à Paris. Merci beaucoup d'écouter la Radio du Monde.